franceinter.fr.
Et donc le grand groupe des dinosaures qui fait sa révolution aujourd'hui à la une de la science.
C'est juste comme une grosse dinde.
Une dinde, hein. Alors essaie de t'imaginer à l'ère Crétacée. Tu jettes ton premier coup d'œil sur cette grosse dinde en débouchant dans une clairière. Elle avance comme un oiseau en hochant de la tête. Et c'est alors que l'attaque survient. Elle ne vient pas de face, mais par les côtés. Le pire, c'est que tu es vivant lorsqu'il te dévore.
Voilà, la grosse dinde, c'est un vélociraptor, en l'occurrence présenté dans cet extrait de Jurassic Park. Et pour justement en discuter aujourd'hui avec cette étude publiée dans la revue Nature et ces scientifiques de Cambridge qui proposent une toute nouvelle histoire de l'évolution des dinosaures, nous sommes avec vous, Ronan Alain. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléontologue, responsable des collections d'oiseaux et de reptiles fossiles au Muséum National d'Histoire Naturelle. Alors d'abord, expliquez-nous comment sont classés les dinosaures, ce que, a priori, les collégiens ou les lycéens ici présents connaissent de leur manuel.
Alors c'est une très très longue histoire qui remonte à la création même du mot dinosaure. Donc on est en 1842, c'est le paléontologue Richard Owen qui crée le mot dinosaure pour regrouper 3-4 bestioles qu'on a trouvées dans le Crétacé et le Jurassique anglais. Donc il crée ce mot et 20 ans plus tard, un de ses collègues anglais toujours, Harry Goversillet, va proposer de classer les dinosaures, on a découvert un petit peu plus depuis, en deux groupes. D'un côté les saurischiens, qui sont des dinosaures qui ont un bassin qui ressemble à celui des lézards. En fait, les trois os qui composent le bassin vont définir trois directions différentes. Et de l'autre côté, les ornithischiens, avec un bassin toujours avec les mêmes trois os, mais avec un pubis qui définit deux directions, donc un bassin qui va être tétraradié et qui montre une anatomie particulière.
Tétraradié, ça veut dire quoi exactement ?
Tétraradié, quatre directions différentes.
Merci.
Voilà. Et donc à partir de là, on va garder cette grande dichotomie dans l'histoire des dinosaures et on va mettre les dinosaures soit dans les saurischiens, soit dans les ornithischiens jusqu'à peu près aujourd'hui.
Alors, du coup, qu'est-ce qui change aujourd'hui, puisque la publication date de ce matin, dans les nouveaux groupes de dinosaures proposés par ces chercheurs anglais ?
Alors, en fait, il n'y a pas de nouveaux groupes proposés, il y a des nouvelles recombinaisons, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, le groupe des sauropodes, qui est connu par le Diplodocus, si on peut donner un exemple. On peut prendre le groupe des théropodes, connu par le tyrannosaure, et puis le groupe des ornithischiens, qu'on connaît par exemple, l'iguanodon. Alors jusqu'ici, donc, on groupait plus volontiers notre diplodocus avec les théropodes, donc avec le tyrannosaure, et les ornithischiens, l'iguanodon, étaient dans son groupe à part. Et là, ce que proposent les collègues anglais, c'est de regrouper les ornithischiens, donc l'iguanodonte, avec le tyrannosaure. Et donc, c'est un regroupement qui se ferait à la base des dinosaures, qui se ferait dès 220 millions d'années.
Mais ça, c'est une révolution en soi ou pas ?
C'est une révolution en soi, parce que je vous dis, ça fait 150 ans, et je pense que les lycéens qui sont présents ici, s'ils ont fait un petit peu de phylogénie, donc ils ont reconstruit des arbres phylogénétiques, ont dû apprendre que les oiseaux sont des dinosaures, et ils ont dû aussi apprendre que les dinosaures sont divisés en ornithischiens et en saurischiens. Et on apprend ça aux enfants, hein, je vais pas...
C'est vrai ?
Oui, ah bon. C'est dans tous les bons livres, même dans tous les mauvais livres, ouais. Dans tous les livres sur les dinosaures, à 7-8 ans, tous les paléontologues vont donner cette grande dichotomie, et donc tout le monde connaît ça, les gens qui s'intéressent aux dinosaures connaissent cette dichotomie, et donc là on va bouleverser un petit peu les habitudes.
Ça veut dire qu'on connaissait vraiment mal les dinosaures ou c'est simplement une nouvelle façon de revoir les fossiles qu'on connaissait ?
Alors après, l'article vient juste de sortir, il va devoir passer à la moulinette scientifique. Évidemment, je l'ai relu en détail ce matin, il y a des choses qui sont un petit peu contestables, je pense, dans cet article. En fait, cet article, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau ? En fait, il a pris toutes les analyses, les données qui ont été faites ces 15 dernières années, il a tout regroupé et il a traité l'ensemble des données. Donc c'est un peu un papier sur des big data, comme on le dit aujourd'hui. Le problème de ces big data, c'est qu'on a la quantité, mais on a rarement la qualité. Et quand on travaille sur les liens de parenté entre les dinosaures, ce qui est important, c'est d'avoir un grand nombre de caractères pour pouvoir inférer ces liens, mais c'est aussi d'avoir des caractères de qualité, si j'ai envie de dire, des caractères qui sont bien définis. Tel processus sur tel os doit être bien décrit, on doit tenir compte de la fossilisation, on doit tenir compte des fossiles qu'on a à disposition. Donc voilà, il va falloir peut-être revenir maintenant, arrêter de faire ces grandes matrices de données anatomiques qui vont passer par la moulinette informatique, peut-être revenir un petit peu plus sur la qualité des données.
Avec
des fossiles, il y a des fossiles à la base. Le problème, c'est de ne pas réutiliser telles quelles les données des collègues, c'est de les reprendre et de les réinvestir par soi-même avec sa propre observation. La paléontologie est une science naturaliste et donc fait appel à l'observation.
Renan Alain, on a une question pour vous dans le public et je crois que c'est Chiara, c'est ça, qui est du lycée Condorcet. Bonjour Chiara.
Bonjour. Est-ce que c'est vrai que les dinosaures avaient des plumes?
Alors, effectivement, ça fait. Donc, on sait que les oiseaux ont des plumes, on sait que les dinosaures carnivores, certains dinosaures carnivores, certains théropodes ont des plumes. Et ce qui est très intéressant, c'est que certains ornithischiens, donc ces fameux dinosaures proches de l'iguanodonte, ont eux aussi. Quelques exemplaires ont été retrouvés avec des plumes. Et donc, avec cette nouvelle étude, on pourrait peut-être même inférer que les plumes. Si ça se confirme, les plumes seraient apparues non pas il y a 170 millions d'années comme on le pensait, mais dès l'origine des dinosaures, il y a 220 millions d'années.
Une question plus large, si on refaisait ce même travail de big data, de moulinette, mais avec d'autres groupes comme les mammifères ou les insectes, on n'aurait pas le même genre de surprise dans la classification?
Alors, on pourrait avoir le même genre de surprise. Il y a une différence énorme avec les insectes et les mammifères, c'est que aujourd'hui, des insectes et des mammifères, vous en avez quand même beaucoup, et vous pouvez utiliser les données moléculaires. Donc en fait, actuellement, on construit les phylogénies avec deux approches, une approche moléculariste en utilisant l'ADN des animaux actuels et une approche anatomique quand on veut mettre les fossiles. Mais on peut grouper les deux. Quand vous êtes sur les dinosaures, en particulier les dinosaures, les grands dinosaures dont on parle, vous n'avez plus de molécules, donc vous êtes obligé de vous cantonner à l'anatomie.
Renaud Alain, aujourd'hui, c'est encore un sens de parler de dinosaures où il faut modifier jusqu'au terme de ces animaux?
Alors, avec l'étude qui vient de sortir, ça a toujours un sens, mais on pourrait peut-être aller plus loin et on ne peut pas complètement exclure qu'on revienne à cette vieille vision de 1880 de Sillé dont je parlais au départ, qui pensait que lui, il y avait les ornithischiens d'un côté, les saurischiens de l'autre, et que les deux n'étaient pas du tout apparentés, formaient deux groupes de reptiles complètement différents qui auraient évolué chacun de leur côté. Donc on ne peut pas l'exclure complètement à l'heure actuelle, ouais. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de collègues qui vont rentrer dans la brèche et tester ces hypothèses.
Donc la science va faire marche arrière quasiment?
La science fait marche arrière. On a tendance à croire qu'avec toutes les méthodologies modernes, la science avance à pas de géant,
ouais.
Mais faut pas rejeter tout ce qu'ont fait nos collègues du 19e siècle, voire même du 20e siècle. Ils avaient malheureusement pas les moyens techniques qu'on a, mais la technique ne fait pas tout. Après, il y a l'analyse, et il y a des analyses qui sont faites simplement sur l'observation qui peuvent être très très pertinentes, et ça, cette étude nous le démontre.
C'est triste, mais oui, parce qu'on pourra plus dire que les oiseaux sont des dinosaures, alors que c'est quelque chose qui a quand même du mal à passer chez le grand public.
On pourra plus le dire, ça, vraiment?
Si on n'a plus de dinosaures.
Ça dépendra si on redéfinit le terme dinosaure, et puis surtout, on pourra aussi s'amuser à dire que les oiseaux sont des théropodes, donc des tyrannosaures, si vous voulez. Donc ouais. Ça restera toujours.
Bon, cette étude, vous la validez, vous, Renaud Alain, à titre personnel ou pas? Vous
mettez beaucoup de guillemets? À titre personnel, je pense que les données qui sont dans l'étude sont probablement bonnes et je pense qu'il n'y a pas à revenir sur la qualité scientifique du travail. Après, voilà, moi je vais attendre un petit peu avant de dire que les ornithischiens sont le groupe préféré des théropodes. Il va falloir que je travaille sur les mêmes données. On verra un petit peu plus tard.
D'ici là, on ne va pas vous contredire, ne vous inquiétez pas. En tout cas, bouleversement au pays des dinosaures. Merci beaucoup, Renan Alain, d'être venu nous en parler. Et puis Axel, on se retrouve demain.
Lundi.
Demain, on n'est pas vendredi.
Au salon du livre, mais il n'y a pas de
livre
de la
science.
Ah oui,
c'est vrai, exactement. Donc ce sera lundi en ce qui nous concerne. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les poumons qui pourraient produire plus de la moitié de nos plaquettes sanguines, ces cellules qui se trouvent dans notre sang et qui participent à sa coagulation, eh bien cette découverte surprenante bouscule notre connaissance sur les mécanismes du corps humain. C'est chez la souris que des chercheurs californiens ont d'abord fait cette observation. Des mégacaryocytes, véritables usines à plaquettes, ont été observées dans les poumons des rongeurs. Elles y produisent plus de 10 millions de plaquettes par heure, environ la moitié des plaquettes sanguines d'une souris. Reste à voir maintenant si ce mécanisme est également présent chez l'être humain. Se poser sur Europe, une des lunes de Jupiter, pourrait s'avérer plus compliqué que prévu. C'est pourtant l'un des objectifs que la NASA s'est fixé. D'ici à 2030, l'agence spatiale suspecte l'existence d'un océan sous la surface glacée de la Lune. Mais cette surface présente plusieurs défis à relever. La température moyenne y est de moins 176 degrés et de nombreuses crevasses s'y sont formées. L'objectif objectif est de se poser là où la glace est la moins épaisse. L'accès à l'océan et donc le prélèvement d'échantillons en serait facilité. Leur analyse, en tout cas, permettrait alors de révéler la présence d'éventuels signes de vie là encore. Pour l'heure, donc, la première étape est d'identifier des sites potentiels d'atterrissage. Et puis, laisser nos enfants jouer en extérieur est bon pour l'environnement. C'est ce que suggère, en tout cas, une étude canadienne. Vivre des expériences positives en pleine nature pendant l'enfance influence sur la façon dont nous traitons notre environnement. Catherine Broom, chercheuse dans les sciences de l'éducation, a interrogé une centaine d'étudiants âgés entre 18 et 25 ans. Résultat, ceux qui étaient habitués à jouer dehors plus petits expriment leur affection pour la nature à 87%. Parmi eux, 84% estiment que la protection de l'environnement est une priorité. Pour la chercheuse, la multiplication de programmes de sortie scolaire serait une piste pour rendre les enfants plus éco-sensibles une fois adultes.